7h46, Gloria Steinem est en retard et ça tombe bien parce que je vais pouvoir ainsi vous la présenter. Elle publie son autobiographie « Ma vie sur la route, mémoire d'une icône féministe », c'est chez HarperCollins. Alors tout d'abord, il faut vous imaginer que Gloria Steinem est une véritable icône aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il suffit de décrire deux ou trois traits physiques d'elle, une paire de lunettes qui lui mange le visage, de longs cheveux séparés par une raie tracée au milieu du crâne. Tout cela pour des millions d'Américains, ce sont des détails qui suffisent à l'identifier. Elle est née en 1934, c'est une figure de proue du féminisme aux États-Unis depuis les années 1960. Elle est véritablement intégrée à la pop culture américaine. Elle a fait l'objet d'un documentaire, d'une biographie, d'une pièce de théâtre. Elle apparaît jouant son propre rôle dans une série télévisée. Si vous êtes familier de la série Les Simpsons, bah, vous vous êtes rendu compte qu'elle est l'une des icônes de Lisa, vous savez, la cadette futée, revendicatrice de Marge et Homer Simpson. Elle a été aussi le modèle sur lequel a été basé le premier Marvel consacré à une super-héroïne. Et elle a créé un certain nombre d'actions qui ont fait parler d'elle. Elle ne se définit pas comme une activiste féministe, mais comme une organisatrice féministe itinérante. Comprenez, une organisatrice d'événements collectifs dont la vocation est de donner la parole aux femmes et, à travers les échanges ainsi organisés, de sensibiliser à l'injustice de leurs conditions et faire progresser l'égalité des droits. Alors, en France, elle est encore peu connue. Il y a néanmoins une humoriste qui est actuellement promeut Gloria Steinem. C'est Sophia Aram qui est sur scène et qui, dans son spectacle, évoque l'hypothèse où les hommes auraient leurs règles. Gloria Steinem a été l'une des premières à militer sur cette idée humoristique pour tenter de montrer à quel point l'inégalité des sexes, eh bien, change les stéréotypes. Et la voilà qui s'installe. Gloria Steinem, bonjour, merci d'être là.
Bonjour.
J'étais en train de faire votre portrait, vous savez, c'est assez compliqué de faire le portrait d'une icône. Enlevez votre manteau, vous avez le temps, c'est le matin, on n'est pas stressé. Non, maintenant que vous êtes là, je vais être très gêné de continuer à faire votre portrait. J'aimerais quand même savoir comment vous êtes devenue féministe, puisque dans votre autobiographie « Ma vie sur la route », vous donnez des détails tout à fait émouvants sur votre père, sur votre mère, votre famille. Qu'est-ce qui a été en quelque sorte le déclic de ce féminisme-là, Gloria Steinem ?
C'est incroyable, c'est toutes les années que j'ai passées à ne pas être féministe. Parce que le mouvement de libération des femmes n'existait pas. Et j'imaginais, que je supposais que les femmes devaient jouer un certain rôle. Je ne le faisais pas, mais j'espérais que personne ne s'en rendrait compte. Donc ce n'est pas avant la fin des années 60 en réalité, un moment où j'avais déjà dépassé la trentaine, que le mouvement de libération des femmes est advenu et que j'ai réalisé qu'on n'était pas obligé de faire semblant, qu'on pouvait en fait être soi-même.
Et être soi-même, cela s'est traduit par différentes étapes chez vous. Un voyage en Inde qui a été particulièrement révélateur. Dans quelles conditions, Gloria Steinem ?
Oui, c'était effectivement révélateur pour moi d'aller en Inde. Et c'était avant que je découvre le mouvement des femmes. Il y avait un mouvement similaire en Inde, bien sûr, mais il était plutôt anticolonial. Il s'opposait à la tradition la plus conservatrice de l'hindouisme. Donc je ne comprenais pas que ça pouvait aussi exister dans d'autres pays. Mais je suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu l'occasion de vivre 2 ans en Inde. D'abord parce que c'était juste après le mouvement pour l'indépendance. C'était une époque très électrique, pleine d'énergie. C'était un peu comme l'Afrique du Sud allait devenir une fois qu'elle serait également indépendante. Et bien sûr, je ne savais pas comment le reste du monde vivait en tant qu'Américaine. Donc c'était très important pour moi. Et ça m'a fait comprendre aussi comment on s'organisait, parce que l'organisation à la Gandhi, qui en réalité s'inspirait du mouvement des femmes indiennes, mais ça j'ai mis un moment à m'en rendre compte, c'est un mouvement qui s'inscrit vraiment dans l'idée des cercles de parole, les moyens sont aussi importants que les fins, c'est ce type d'organisation.
Et l'un de vos faits d'armes, Gloria Steinem, également, a été de vous faire embaucher comme entraîneuse dans un bar Playboy, comme Bunny Girl, comme on dit, et de décrire la condition, les conditions de travail de ces Bunny Girls.
Oui, ça c'était une mission, une commande d'un magazine. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, puisqu'en fait j'ai écrit sur les conditions de travail effectivement des femmes qui étaient dans ces bars, des conditions assez terribles. Mais ça a posé beaucoup de problèmes dans ma vie parce que, en particulier quand quelqu'un veut minimiser ou critiquer ce que je fais, on me dit « oh, bah, c'était juste une bonne idée ». Donc, mes sentiments vis-à-vis de cette expérience sont assez ambivalents.
Il y a donc toute la suite de vos faits d'armes, la manière dont vous avez milité, puisque j'ai dit tout à l'heure, alors là, vous allez probablement rougir, que vous avez été au mouvement féministe, ce que Martin Luther King a été au droit civique. C'est la professeure Stancel qui dit cela de vous. Quand aujourd'hui, vous entendez Donald Trump, Jair Bolsonaro au Brésil, évoquer leur vision des rapports hommes-femmes, quel effet cela suscite en vous, Gloria Steinem?
Donald Trump is a hater. Bien, vous savez, Donald Trump est quelqu'un qui est plein de haine. Il hait les gens d'autres races, il a cette envie de dominer les femmes. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout sûr de lui en tant qu'homme et qui, en plus, croit en un ordre hiérarchique naturel. Donc, bien sûr, c'est extrêmement difficile. J'aimerais expliquer qu'il n'est pas en réalité président. Il a perdu de 6 millions de voix, 3 pour Hillary Clinton et 3 qui allaient à d'autres candidats. Mais en raison des spécificités de notre système, ce système de collège électoral, qui est en fait quelque chose qui a été mis en place par un État esclavagiste au départ, nous nous retrouvons avec ce président que nous imposons au monde. Et je m'excuse pour ça. Mais ça a aussi galvanisé les gens aux États-Unis. Il y a des activistes, des militants, des gens qui n'avaient même jamais voté ou qui ne s'étaient jamais présentés et qui maintenant se présentent pour des... En fait, je crois que nous nous sommes réveillés, un terme qui est difficile à traduire d'ailleurs.
Vous avez mené cette marche des femmes sur Washington et vous dites que ça a été l'un des moments les plus vibrants de votre vie militante, Gloria Steinem. Une marche qui était, je le rappelle pour nos auditeurs, qui était dirigée donc après l'élection de Donald Trump à protester contre cette élection.
C'était une expérience incroyable. Je ne dirigeais pas cette marche du tout, en fait. Je m'y suis exprimée. Elle était menée par d'autres femmes et elle était aussi très spontanée. Mais même avant la marche, alors que j'étais chez moi, des gens m'appelaient. Des gens du Kenya, des gens d'Allemagne, des gens qui marchaient aussi. C'était quelque chose d'extrêmement contagieux partout dans le monde. C'est quelque chose, bien sûr, auquel la technologie a contribué, puisque ça nous permettait d'être en contact, mais ce sont vraiment les âmes, les énergies des gens, la compassion qui a été la force motrice, la compassion devant le désastre que représentait cette élection et le désir de montrer la volonté populaire. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais.
Comment vous interprétez ce mouvement? Est-ce que vous dites, Gloria Steinem, qu'il y a finalement un retour de bâton dans le fait que Donald Trump soit élu? Alors, Vous dites que vous vous excusez de la présence de ce président américain, mais en réalité, il n'est pas le seul à défendre ses positions. Il y a la même chose au Brésil, je l'ai dit, en Hongrie, bref, il y a une véritable internationale masculiniste. Est-ce que c'est une réaction au féminisme? Comment vous l'interprétez?
Non,
vous avez raison. Il y a une sorte, effectivement, de retour de bâton fasciste un peu partout dans le monde, y compris en Inde, d'ailleurs, ce qui me rend très triste. Je ne peux que parler des États-Unis, mais je pense qu'il y a des similarités avec ce qui se passe ailleurs. Le mouvement pour la justice sociale dans de nombreuses régions du monde, le mouvement environnemental, sont devenus des mouvements majoritaires au niveau de l'opinion. C'est donc une victoire, mais le moment le plus dangereux, c'est celui qui suit une victoire. Parce que ces gens qui, auparavant, étaient la majorité et qui pensent qu'ils ont un droit automatique par la naissance ou de par leur richesse, peu importe ce que c'est, en fait, ils sont nés dans une position de pouvoir et se retrouvent à présent à être la minorité. Et c'est clairement ce qui se passe aux États-Unis. Un tiers du pays croit à cet ancien système. Ces hommes d'âge moyen, blancs, qui me disent « un noir, une femme noire a pris mon emploi, m'a volé mon emploi ». Et la réponse, c'est « Mais qui a dit que c'était à vous, cet emploi, en fait ?» C'est ce sentiment d'avoir droit à ça. Mais effectivement, nous faisons l'expérience de ce retour de bâton, et c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres pays. Et les majorités ne gagnent pas forcément, en fait, à moins de bien s'organiser, parce que le pouvoir économique, les institutions qui détiennent l'autorité sont encore entre les mains, très souvent, des nouvelles minorités.
Autre question qui semblait jadis avoir été résolue et qui, hélas, aujourd'hui, ne l'est plus, c'est la question de l'avortement. Vous avez été l'une des premières femmes, Gloria Steinem, à dire que vous aviez avorté. Là aussi, comment interprétez-vous ce phénomène de backlash, de retour de bâton?
C'est un phénomène qui va durer, je pense, cette réaction, parce que la raison fondamentale qui fait, en tout cas le point de départ de cette raison qui fait que les femmes sont dans une position inférieure, c'est le désir de contrôler la reproduction. Si les femmes n'avaient pas d'utérus, on nous laisserait tranquilles. Mais le seul moyen de contrôler la reproduction, c'est de contrôler les femmes. Et pour cette raison, cela implique aussi parfois le racisme, parce qu'on veut continuer à ce que les races soient séparées, ou les castes, dans le cas de l'Inde, par exemple. Donc c'est vraiment un des problèmes fondamentaux, contrôler ou non la reproduction. Donc ce sont des questions qui ne vont pas disparaître demain. Même si la majorité est d'accord aujourd'hui pour dire que les femmes, comme les hommes d'ailleurs, doivent garder le contrôle de leur propre corps.
Mais est-ce que c'est un mouvement qui finalement vit son champ du cygne ces derniers moments, ou est-ce quelque chose de profond, ce mouvement masculiniste que l'on voit se déployer un peu partout dans le monde, Gloria Steinem?
Je ne peux pas faire de prédiction. Ce que je dirais, c'est que la prise de conscience dans la majeure partie des pays nous emmène complètement ailleurs, vers une compréhension d'une humanité partagée. Mais les structures de pouvoir sont toujours entre les mains des gens qui croient dans cette hiérarchie à l'ancienne. Donc la seule chose que je peux dire, c'est que ça dépend de ce qu'on va faire, vous, moi et tous les autres.
Eh ben, on va continuer à vous écouter dans une quinzaine de minutes, Gloria Steinem. Ma vie sur la route, c'est votre autobiographie. Elle est préfacée par Christiane Taubira. Elle est publiée chez HarperCollins, traduite de l'anglais par Karine Lanscher, tandis que vous étiez traduite ici par Marguerite Capelle. On vous retrouve dans quelques minutes en compagnie de Mona Cholet. C'est l'une de vos disciples. Elle est française. Vous allez faire sa connaissance. Et nous retrouvons l'une des figures de proue du féminisme aux États-Unis, Gloria Steinem. Gloria Steinem, vous publiez votre autobiographie, ou plus exactement celle-ci est publiée en français, traduite en français, Ma vie sur la route, mémoire d'une icône féministe avec une préface de Christiane Taubira, et c'est aux éditions HarperCollins. Et nous accueillons une féministe française, celle-là, Mona Chollet, bonjour, vous êtes journaliste, bonjour. Essayiste, et précisément votre livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » publié aux éditions Zone, et est aujourd'hui un livre célébré. Dans ce livre, page 43, que vois-je ? Eh bien, une présentation de Gloria Steinem. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette femme qui est en face de vous, Mona Chollet, je sais, c'est un peu embarrassant, mais on ne va pas parler très fort. Qu'est-ce que cette femme représente pour vous ?
En fait, je l'ai découverte assez tard, comme enfin j'avoue que je connaissais le nom de Gloria Steinem un peu comme ça, sans y avoir un peu vaguement, et je crois comme beaucoup de gens autour de moi, je l'ai découverte au moment de la Women's March début 2017, après l'entrée en fonction de Trump, où elle avait fait un discours qui m'a vraiment énormément frappée, et du coup je me suis dit mais il faut vraiment que je m'intéresse et voilà, j'ai cherché ses livres, donc il y avait rien en français à l'époque, ça a été un peu réparé depuis heureusement, et j'ai tout dévoré, donc j'ai vraiment regretté de pas l'avoir connue plus tôt. Et elle m'a, c'est vrai que je me suis énormément servie de son parcours et de ses œuvres dans Sorcières, parce que j'essayais d'établir un parallèle en fait entre les femmes, le type de femmes réprouvées à l'époque des chasses aux sorcières, et les femmes encore réprouvées aujourd'hui, même si c'est pas dans les mêmes proportions heureusement. Et pour moi, elle incarne la figure de la femme indépendante, c'est-à-dire la femme qui existe par elle-même, indépendamment de ses liens avec des hommes ou des enfants.
Gloria Steinem, est-ce que c'est le message que vous voulez diffuser, une vie libre ? Vous avez dit par exemple que vous aviez refusé le mariage, vous l'avez refusé pendant très longtemps parce que vous refusiez, je vous cite, de vous accoupler en captivité.
No, you know, I think that we find each other so I don't know, supportive of each other,
je
even
pense que nous trouvons beaucoup de soutien l'une dans l'autre, même si on ne se connaît pas depuis très longtemps, ce n'est pas toute notre vie, parce que l'expérience du patriarcat,
and rediscovering our own past,
le fait de redécouvrir very, very aussi notre propre passé, c'est, on a quelque chose de très similaire là-dessus, et on a toujours eu une relation, un lien avec le féminisme français depuis le premier numéro de Miss Magazine. On a essayé d'imiter, de copier ce qui avait été fait ici avec ces centaines de femmes qui avaient dit qu'elles s'étaient fait avorter à l'époque où c'était encore illégal, et pour exiger justement que la légalisation avec Simone de Beauvoir. Et depuis cette époque-là, je pense que nous sommes inspirés mutuellement.
Et aujourd'hui, l'évolution du féminisme, car les choses sont devenues plus compliquées, il y a de plus en plus de scissions à l'intérieur du mouvement féministe. Comment vous situez-vous par rapport à celle-ci, Gloria Steinem ?
That is not my experience, actually.
Ce n'est pas l'expérience que j'ai, en fait. Je pense qu'il y avait plus de dissensions au début, parce qu'on avait des expériences tellement différentes.
Expliquez-nous.
Nous étions divisés entre celles qui voulaient réformer de l'intérieur du système et celles qui pensaient qu'il fallait être à l'extérieur, en dehors du système. Et aujourd'hui, on pense qu'il faut faire les deux. Donc finalement, il y a moins de différences.
Alors, la question, par exemple, de l'intersectionnalité, la manière de dire qu'est-ce que l'on doit prioriser. Est-ce qu'il faut prioriser, par exemple, la lutte contre le racisme, la lutte contre le sexisme ou le masculinisme ? Sur cette question, qu'avez-vous comme regard ? Je sais que dans votre livre, page 245, vous considérez que c'est une question médiatique, mais vous allez me le dire.
Non, je pense qu'il faut mener les deux combats au même moment. Ce n'est même pas une question. Il n'y a aucun doute. Parce que s'il y a du racisme, ça multiplie les raisons de contrôler la reproduction pour maintenir une séparation entre les races. Et donc, rien que pour cette raison, il faut être unis. Et puis, la plupart des femmes du monde ne sont pas blanches. Et bientôt, d'ailleurs, la majorité des gens aux États-Unis ne seront pas blancs non plus. Et donc c'est très important de comprendre que ces questions sont extrêmement liées d'une façon si profonde qu'on ne peut pas lutter contre l'un sans lutter contre l'autre. Nous voulons promouvoir les droits civiques. Est-ce que c'est juste pour la partie masculine de la population et pas pour les femmes? Non, bien sûr que ça va ensemble.
Une réaction, Mona Chollet?
Ah oui, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que effectivement, je crois que c'est un point marquant aujourd'hui, un fait marquant aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que tous les groupes dominés partagent une sorte de grande fatigue et de ras-le-bol devant la situation qu'il leur a faite, que ce soit des groupes, des minorités culturelles, sexuelles, les femmes, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une revendication du droit à la parole, à l'égalité, qui est particulièrement forte aujourd'hui et qui crée en réponse énormément de crispations et de peurs, souvent irrationnelles d'ailleurs.
Et justement, est-ce que vous trouvez, Mona Chollet, que dans les combats du féminisme, par exemple, les stéréotypes de genre, est-ce que vous pensez qu'ils reculent aujourd'hui? Avez-vous l'impression que ces combats remportent malgré tout des victoires, même si il y a le contre-coup, la victoire de Trump, celle de Bolsonaro au Brésil?
J'ai l'impression que c'est vraiment une sorte de paroxysme d'affrontement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une combativité probablement inédite, enfin en tout cas pas inédite, mais inédite depuis longtemps, du côté des féministes, des antiracistes, et en même temps une offensive sexiste et raciste, d'autant plus violente, peut-être pour essayer de maintenir le couvercle sur la marmite, en fait, peut-être pour essayer d'empêcher. C'est très concret, tout ça, c'est aussi des histoires de privilèges, donc de défense de privilèges et de contestation de privilèges de l'autre côté. Donc c'est un peu inévitable, je pense que ça donne lieu à des batailles très violentes.
Mais alors, justement, en regardant ce qui se passe aux États-Unis, Gloria Steinem, on voit que les stéréotypes de genre, par exemple, aux États-Unis, un journaliste peut dire qu'il préfère Sarah Palin à Hillary Clinton parce que les jambes de l'une sont plus belles que les jambes de l'autre. Est-ce que ça, on peut continuer à le dire aujourd'hui aux États-Unis? Je veux dire, sans être évidemment considéré comme un personnage ringard et...
Bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut dire, mais c'est complètement dingue de dire une chose pareille. Je pense que c'est une sorte de suicide, finalement, de dire une chose pareille.
Oui, mais apparemment, ça continue à se dire dans les médias, ce qui veut dire qu'il y a une partie des médias américains qui assument tranquillement leur masculinisme.
Eh bien, nous faisons de notre mieux pour nous aussi faire des commentaires sur leur apparence. Funny, c'est assez amusant d'ailleurs.
Votre point de vue, Mona Chollet?
C'est quelque chose qu'on voit quand même aussi en France. Hein. Rappelez-vous la robe de Cécile Duflo à l'Assemblée nationale. Je crois que se focaliser sur le physique des femmes, c'est toujours une manière de s'arranger pour reprendre de la hauteur, c'est-à-dire pour retrouver une position de dominance, c'est-à-dire au moment où les femmes entrent en politique et prétendent elles aussi exercer le pouvoir, les ramener à leur physique, c'est une manière de se mettre dans la position de celui qui juge et donc qui garde le pouvoir d'une certaine manière. Et évidemment de les disqualifier, de contester le fait que des femmes puissent exister par leur intelligence et leurs compétences.
J'ai dit dans votre présentation, Gloria Steinem, que vous aviez notamment publié un texte très drôle sur les règles des hommes. Je vais en citer les premières phrases. Si les hommes avaient des règles, puisque c'est la situation dans laquelle vous vous placez, on célébrerait les premières règles avec des cadeaux, des cérémonies religieuses, des repas de famille, des fêtes réservées aux garçons. Pour prévenir l'absentéisme mensuel de nos dirigeants, le Congrès mettrait en place un institut des dysménorrhées. Dans le domaine sportif, des statistiques souligneraient que les hommes réalisent de meilleures performances et remportent plus de médailles olympiques quand ils ont leurs règles. C'est un texte qui a eu énormément de répercussions. Que cherchiez-vous à dire au travers de ce texte? Et là aussi, est-ce que les choses ont changé?
Ce que j'essayais de dire, c'est que tout ce que le groupe qui est en position de pouvoir connaît sera considéré comme quelque chose de positif. Par exemple, la peau blanche est une peau beaucoup plus fragile
qu'une peau qui contient plus de mélanine. On est plus soumis au risque de cancer de la peau, etc. Mais pourtant, on nous a fait croire que la peau blanche était supérieure. Et donc, je me suis posé la même question sur les règles. Et je pense que si les hommes avaient leurs règles, ils en feraient un signe manifeste de leur supériorité. Ils diraient, bien sûr, que les femmes ne peuvent pas être mathématiciennes puisqu'elles n'ont pas ce sens intime de la mesure du temps. Elles ne peuvent pas être astronomes puisqu'elles ne sont pas connectées ainsi de façon intime au mouvement des univers. Donc c'était très amusant d'imaginer, de renverser comme ça les signes de pouvoir.
Qu'est-ce que vous en pensez, Mona Chollet ?
Oui, c'est très libérateur, je crois, parce que... moi, j'avoue que j'ai été adolescente à une période où le féminisme n'était pas très à la mode et je me rends compte que j'ai énormément intégré cette honte, en fait. Je pense qu'il y a une honte du corps féminin qu'on assimile sans du tout, sans s'en rendre compte. Et c'est un énorme travail de s'en libérer, finalement. Et je suis assez contente parce que en France aussi, il y a eu énormément de travail pour réhabiliter, mettre un terme à la honte autour des règles. Enfin, il y a eu deux livres ces dernières années par Élise Thiébaud et Jack Parker qui parlaient du sujet.
Aram, l'humoriste, en parle beaucoup dans son dernier spectacle.
Et donc, je pense que pour les jeunes femmes aujourd'hui, ça doit être très différent de grandir dans ce contexte-là. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose.
Gloria Steinem, comment avez-vous vécu le mouvement MeToo et notamment son point de départ avec Harvey Weinstein, le producteur hollywoodien?
Pour nous, le mouvement MeToo a commencé au début des années 70, puisque c'est le moment où les femmes ont commencé à raconter ce qui leur arrivait et à nommer harcèlement sexuel ce genre d'expérience qu'elles pouvaient avoir au travail. Miss Magazine a écrit un reportage sur le harcèlement sexuel, ce qui a conduit à notre retrait des kiosques parce que c'était extrêmement choquant. Et puis ensuite, il y a eu une loi sur les discriminations sexuelles, donc il y a eu un moyen d'agir de façon juridique. Et puis il y a eu cette femme qui s'appelait Anita Hill, dont peut-être on se souvient ici aussi.
Il faut rappeler qui elle était.
Exposed sexual harassment.
Elle a révélé le harcèlement sexuel.
Elle
avait été harcelée par un candidat à la Cour suprême, un poste à la Cour suprême. C'était Clarence Thomas, le candidat, et au moment de son audition, la question a été soulevée. Il y a eu une audition devant le Sénat américain où la majorité du pays la croyait elle, mais les sénateurs s'étaient déjà engagés à voter pour Clarence Thomas, pour la plupart d'entre eux, et il est actuellement à la Cour suprême au moment même où nous parlons. Mais le fait que cette audition ait été montrée à la télévision a éduqué le pays sur la question du harcèlement sexuel, et tout ça conduit au mouvement MeToo, qui se distingue par le fait que c'est encore une fois un mouvement majoritaire aujourd'hui. Les femmes ont vraiment le sentiment qu'elles peuvent venir parler de ce qui s'est passé, de ce qui leur est arrivé et obtenir un soutien. Cela se produit encore sur nos campus. Par exemple, 4 femmes ont accusé le même homme de ce genre de comportement avant qu'il soit arrêté. Donc ce n'est pas encore réglé, mais c'est dans la conscience majoritaire. Et donc c'est quelque chose qui rattrape le monde parce que c'est une expérience qui est commune, qui est partagée.
Et alors, le fait malgré tout que l'affaire Weinstein ait été un point d'or, que Weinstein ait aussi été un grand donateur pour le parti démocrate américain, pour la gauche américaine.
Je crois que ce qui a fait la différence, c'est la visibilité extrême des personnes qui étaient dans le show business. Les femmes qui avaient été harcelées étaient des actrices, elles avaient accès aux médias. Elle s'était néanmoins retrouvée dans une situation de vulnérabilité extrême parce qu'il était en mesure à la fois de leur donner des rôles de stars et en même temps, si elle lui refusait des services sexuels, de les mettre dans des situations difficiles où personne ne les engagerait.
guilty.
Donc il est extrêmement coupable sur les deux aspects, hein, le fait de s'être imposé à elle et d'avoir puni celle qui avait refusé ses avances. Donc ça a été vraiment un tournant parce qu'il était très connu, que les femmes en question étaient très connues, et je pense que la procédure judiciaire a éduqué en quelque sorte le pays.
Mona Hachelet, justement, le regard que vous portez sur l'affaire Weinstein et plus généralement sur la vague MeToo en France, ailleurs.
En France, je pense que ça a été un révélateur assez peu flatteur, probablement. C'est-à-dire que bon, c'est quelque chose qu'on savait déjà parce qu'il y a quand même eu depuis une quinzaine d'années toutes ces affaires qui ont éclaté les unes après les autres, depuis l'affaire Quentin en 2003, en passant par l'affaire Polanski, l'affaire DSK, l'affaire Baupin, et on s'est aperçu à toutes ces occasions qu'il y avait une résistance énorme et une résistance de la part des élites, en tout cas, je sais pas comment il faut les appeler, mais oui, des milieux cultivés, intellectuels, politiques. Qui refusent absolument, enfin qui ont qui déploient des trésors de rhétorique pour essayer de disqualifier les revendications qui naissent du mouvement MeToo. Je crois que ça a révélé malheureusement que dans ce pays on aime les femmes décoratives et quand elles osent donner leur avis sur la façon dont on les traite, tout le monde crie au scandale malheureusement. Donc j'espère que ça va changer.
Mais alors est-ce que vous trouvez que ça a changé ou est-ce que
Oui, j'imagine que malgré tout, les choses avancent, mais c'est assez. Il y a une tristesse, quoi, parce que je sais pas, ce pays se vante tellement d'être le pays des lumières, du progrès, et là, on se retrouve, dans une espèce, au contraire, d'obscurité réactionnaire. Voilà, c'est un peu dommage.
Gloria Steinem, comment vous voyez justement la France, vous? De ce point de vue-là, je veux dire, du point de vue du rapport entre les gens.
Je ne peux vraiment pas répondre à cette question. You know,
vous venez rarement en France.
I would be totally happy to move here.
À vrai dire, de venir m'installer ici. Nous sentons un lien d'amitié, de proximité. Nous avons le sentiment que, par beaucoup d'aspects, la France est en avance sur nous, et nous avons surtout le sentiment que nous avons besoin de rester en contact, de nous suivre les uns les autres. Je pense que nous croyons de moins en moins dans les frontières nationales au fur et à mesure où le temps passe, nous habitons tous la même terre.
Vous êtes beaucoup intéressé aux icônes de la pop culture américaine, Jackie Onassis, Marilyn Monroe. Qu'est-ce qu'elles révèlent, selon vous, Gloria Steinem?
Je
pense surtout le cas de Marilyn Monroe. Nous, les femmes et le mouvement des femmes, nous étions un peu désolées parce qu'elle est morte avant que le mouvement ne puisse apparaître dans sa vie. Et nous nous sommes toujours posé la question de savoir si elle avait été encore en vie, si elle avait reçu peut-être davantage de soutien. Elle avait été exploitée sexuellement quand elle était enfant. Elle a été exploitée encore et encore en tant qu'actrice. Elle était déprimée parce qu'elle allait avoir 30 ans. C'est quand même dingue. Et donc, nous avons pensé à elle et nous écrivions sur elle avec un certain regret parce que nous nous sommes toujours dit que peut-être si elle avait vécu plus longtemps, elle serait encore parmi nous.
Mona Hachelet, justement, sur ces stéréotypes ou sur ces icônes féminines, je pense à votre livre Beauté fatale, et où vous alliez à l'encontre d'un certain nombre de stéréotypes imposés aux femmes en matière de beauté. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oui, c'est vrai que souvent, je me suis beaucoup intéressée aux actrices en fait pour Beauté fatale parce que j'ai l'impression que ce qu'on exige des actrices est une sorte de miroir grossissant, de loupe sur ce qu'on exige des femmes en général. C'est Suzanne Sontag, je crois, qui disait que les actrices étaient payées pour faire ce que les autres femmes sont censées faire bénévolement. Et je crois qu'effectivement, cette pression énorme sur le fait de ne pas vieillir, sur le fait de correspondre à une certaine image physique, Oui, je pense que le sort des actrices est vraiment intéressant et je trouve souvent elles en parlent très bien elles-mêmes. C'est-à-dire, enfin, je sais que Gloria est amie avec Jane Fonda aussi, qui a eu toute une réflexion vraiment très intéressante sur ce qu'elle a subi elle-même en tant qu'actrice, sur son rôle de Barbarella, par exemple. Comment peu à peu elle a échappé à ces stéréotypes et le féminisme justement elle l'a beaucoup aidé à résister à tout ça.
Votre point de vue là-dessus, Gloria Steinem?
Je suis heureuse que vous parliez de Jane Fonda parce que je pense qu'elle est un exemple de quelqu'un qui a été renforcé par le fait de faire partie d'un mouvement. Et je suis heureuse de la voir aujourd'hui passer 70 ans avec une série télé qui marche. Et ça aurait pu être le cas de Marilyn Monroe, ça aurait pu être le cas de toutes ces femmes dont la carrière s'est achevée à 30 ans, ce qui n'avait aucun sens.
Jane est
une personne extrêmement forte, honnête, qui prend des risques. Donc, ça a vraiment à voir avec elle en tant que personne, évidemment, et pas en tant que femme. Mais je suis vraiment ravie de la voir avec Lily Tomlin aussi dans cette série télé. Et puis, c'est aussi une grande amitié entre deux femmes. Elles se débarrassent très tôt en fait de leur mari dans cette série.
Actually, their husbands fell in love with each other.
En fait, leur mari d'ailleurs tombe amoureux l'un de l'autre. Et tout le reste de la série porte sur leur amitié et leurs aventures.
Bah, mais alors, justement, dans son autobiographie, Jane Fonda évoquait la manière dont certains des hommes qu'elle avait eu dans sa vie, les premiers, disons, elle l'avait objectivé, ne l'avait pas considéré comme une personne de plein exercice, si j'ose m'exprimer ainsi, Gloria Steinem.
Oui, Jane a beaucoup souffert. Elle a eu un père extrêmement dur. Il disait des choses comme si, bon, bah, si ce type t'a épousé, j'imagine que tu dois valoir quelque chose. Vadim, qui clairement était quelqu'un qui faisait d'elle un objet dans ses films et qui l'a traité en objet. Donc, ça montre vraiment la force qu'elle a d'avoir survécu et à ça et d'être arrivée à un point où elle peut être reconnue comme un grand talent, quelqu'un de grand talent et une personne formidable.
Et pourquoi vous, Gloria Steinem, vous avez échappé à ce type de rapport avec les hommes?
Bien, je dirais qu'un point très important, c'est que j'ai eu un père très bien. Et donc, je savais qu'il existait des hommes bien grâce à lui. Et ça a une influence énorme. Ça a toujours une influence sur la vie d'une fille. Quand on a un père très dur, très dictateur, on peut penser que c'est juste comme ça que les choses se passent et être plus susceptible de choisir ses personnalités familières plus tard dans votre vie. Je pense vraiment que c'est la raison fondamentale. Je remercie mon père pour le fait que je suis toujours amie avec tous mes anciens amants.
Et justement, il y a eu au moment de la vague MeToo en France, Mona Chollet, un certain nombre de remarques sur le fait que ça allait tuer toute forme de séduction, de possibilité de séduction entre hommes et femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, rétrospectivement? Qu'est-ce que ça vous inspire? En dehors d'un soupir, je l'entends, mais je ne suis pas sûr que les auditeurs l'entendent.
Il faut que je soupire plus fort. Non, je pense que c'est un argument assez misérable et qui traduit un certain désespoir, je pense. C'est-à-dire quand on n'a plus que ça à dire, c'est qu'on n'a plus beaucoup d'arguments. Et puis surtout, ça traduit une confusion. C'est tellement révélateur parce que ça traduit une confusion entre les rapports de force et les rapports amoureux. C'est comme si on était incapable de concevoir des rapports amoureux qui soient dépourvus, extraits, extirpés des rapports de force et de la violence. Donc, si c'est vrai, si on peut plus avoir de vie amoureuse en dehors du harcèlement et du viol, on est vraiment mal parti. Mais je pense que c'est pas le cas, heureusement.
Gloria Steinem, votre réaction?
Quand je parle devant un public des hommes, je dis toujours qu'il faut comprendre que la coopération est beaucoup plus intéressante que la domination. C'est ce que je dis aux hommes. Faites-moi confiance. C'est vraiment ridicule, cette idée qu'on puisse obtenir le plaisir par le fait de dominer quelqu'un d'autre, c'est complètement malsain en soi.
Sur le plan politique, il reste beaucoup à faire. On a débuté cet entretien, Gloria Steinem, en parlant de la question politique avec Donald Trump. Comment voyez-vous les choses pour la suite? Parce que, manifestement, malgré toutes les révélations, les scandales, sa popularité semble ne pas se démentir aux États-Unis, en tout cas auprès de son électorat de base. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Trump est
populaire avec à peu près un tiers du pays, ceux qui réagissent à ce mouvement pour la justice sociale, ceux qui sont nostalgiques de l'ancien système, des anciennes hiérarchies. Et le fait qu'un tiers du pays puisse ainsi dominer le reste est aussi lié à notre système électoral. Parce qu'en fait, il a perdu de 6 millions de voix. Et nous devons réparer notre système. Mais c'est à nous de nous débarrasser de lui pour le bien du monde entier pour la prochaine élection.
Gloria Steinem, Ma vie sur la route aux éditions Harper's Collins, un livre traduit de l'anglais par Karine Lalcher, tandis que vous étiez traduite ici par Marguerite Capel. Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes chez Zone, et Beauté fatale, qui je crois a été publié à la Découverte.